France Inter, franceinter.com.
Dans le drame, Poincaré fut la raison de la France. Charles de Gaulle. Ans d'histoire. Dans le cimetière du petit village lorrain de Nubécourt, la tombe de Raymond Poincaré ne se distingue pas des autres. Sur un petit tertre gazonné, une plaque de marbre blanc indique simplement son nom, la date de sa naissance à Bar-le-Duc en 1860 et celle de sa mort en 1934. Mais rien n'indique que celui qui est enterré là était une des figures les plus célèbres de la Troisième République. Député à 27 ans, ministre à 33, puis chef du gouvernement en 1912, il était devenu un an plus tard président de la République à un des pires moments de l'histoire du XXe siècle. À la veille de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle ce Lorrain, profondément marqué par la défaite française de 1870 et l'occupation de sa province natale, s'est montré à la tête de l'État un des plus farouches partisans de la guerre à outrance. Raymond Poincaré, le 14 juillet 1915.
Il n'est pas un seul de nos soldats, il n'est pas un seul citoyen, il n'est pas une seule femme de France qui ne comprenne clairement que tout l'avenir de notre race et non seulement son honneur, mais son existence même, sont suspendus aux lourdes minutes de cette guerre inexorable. Nous avons la volonté de vaincre, nous avons la certitude de vaincre, nous avons confiance dans notre force et en celle de nos alliés, comme nous avons confiance en notre droit.
François Roth, bonjour.
Bonjour.
Alors jamais, je crois, en France, un président de la République n'a exercé ses fonctions dans des circonstances aussi dramatiques que Raymond Poincaré, que l'on vient d'entendre en 1915, pendant la Première Guerre mondiale. Vous le rappelez dans sa biographie, son patriotisme à cette époque-là, son côté va-t-en-guerre, en tout cas la fermeté avec laquelle il a voulu conduire la guerre, est en grande partie liée à ses origines lorraines.
Oui, à ses origines. Je crois qu'il y a trois éléments qu'il faut rappeler. Le premier élément, c'est qu'il a vécu la guerre de 70 et l'occupation. Le second, c'est qu'il n'a pas finalement accepté le traité de Francfort et la perte de l'Alsace-Lorraine, même si ça reste un horizon qu'il évoque rarement. Il défend l'armée dès que c'est nécessaire. Il est lui-même officier de réserve et les journalistes, un petit peu à sa botte, parlent de son pas de chasseur. Cela dit, à l'égard de l'Allemagne, vous avez dit fermeté, mais jamais de provocation. Poincaré n'est pas, comme on l'a dit, un va-t-en-guerre. Il dit simplement qu'il faut être prêt au cas où.
Alors, bien avant la guerre, vous le rappelez dans votre livre, j'étais frappé d'ailleurs de la rapidité avec laquelle François Roth, cet homme, a accédé et monté, a gravi tous les échelons du pouvoir. Il est né donc en 1860, on l'a dit, mais il est député à 27 ans, ministre à 33, et puis alors, ça a été ensuite la présidence de la République à 53. C'était un homme d'abord très brillant, toujours premier dans tout ce qu'il a fait, y compris au barreau de Paris, parce qu'il était avocat en fait de métier, mais aussi très ambitieux en même temps, François Roth.
Oui, il y a chez Poincaré, dès le plus jeune âge, la volonté de parvenir, d'être quelqu'un, pas d'être président de la République, mais d'être un grand avocat, éventuellement d'être un grand écrivain, d'entrer à l'Académie française.
En 1905.
Et il y est arrivé relativement jeune, avec un bagage littéraire, il faut bien le dire, un peu mince. Néanmoins, c'est vrai que c'est une ambition tenace, et cette ambition tenace, jusqu'à la soixantaine, même jusqu'à son départ de l'Élysée, on la sent, parce qu'il veut être, agir pour le pays.
Alors, difficile aussi à classer politiquement et extrêmement prudent. Par exemple, Poincaré, vous le rappelez, est partisan de la révision du procès de Dreyfus. Il est dreyfusard, mais il se mouille très peu dans cette affaire, de même qu'il est laïque et il ne se mêle pas beaucoup du conflit, de la querelle qui a passionné les Français à l'époque de la bagarre entre l'Église et l'État.
Il vote la séparation de l'Église et de l'État.
Oui, mais enfin, disons qu'il n'est pas très actif.
Il se dit laïque.
Oui,
il le répète.
Mais disons qu'il est assez prudent politiquement.
Tout à fait,
c'est peut-être ce qui va expliquer son ascension politique au fond, parce qu'il est plutôt bien vu un peu par tout le monde. En revanche, il y a quelque chose qui l'intéresse particulièrement, disons, au début du XIXe siècle. Au début, c'était les problèmes intérieurs surtout, mais c'est la politique étrangère. Là, il est vraiment intransigeant et on ne transige pas, selon lui, avec, et notamment à propos du conflit qui oppose à la veille de la guerre l'Allemagne et la France, dans tous les domaines. D'ailleurs, il va le prouver. En 1912, il devient président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, chef du gouvernement, et en même temps, ministre des Affaires étrangères, à un moment où, justement, la France et l'Allemagne, il y a une très forte tension franco-allemande.
Oui, mais j'ajouterais que Poincaré ne s'est intéressé d'une façon vraiment importante aux affaires étrangères qu'à partir de la cinquantaine. Ça ne veut pas dire qu'avant, il était indifférent, mais ce n'était pas sa préoccupation principale. On le considérait comme un spécialiste des finances. C'est qu'à partir de 1912, quand il a saisi le portefeuille des affaires étrangères, que là, effectivement...
En même temps que président du Conseil,
voilà,
chef du gouvernement.
Voilà, qu'on s'est aperçu que, effectivement, les affaires internationales, c'était devenu sa préoccupation majeure, essentielle.
Alors, on est à la veille de la guerre, ça peut se comprendre. Il est très attaché, par exemple, au maintien de la triple alliance, en fait, de l'alliance avec l'Angleterre et la
oui.
Russie.
Alors, il y a deux données, à mon avis, qu'il faut rappeler. La première, c'est qu'à l'égard de l'Allemagne, il est ferme, mais il ne veut pas de provocation. Et à l'égard de l'Allemagne, ce qu'il faut s'efforcer de réaliser pour empêcher la guerre, parce que n'en faisons quand même pas trop un belliciste, c'est l'équilibre des forces, ce qui va le conduire à la loi des 3 ans. Alors le deuxième point, effectivement...
Des 3 ans, il faut le rappeler, c'est la loi qui élargit la durée du service militaire à 3 ans. Parce
qu'il l'augmente de 2 à 3 ans.
Oui.
Et l'objectif, c'était, puisque la démographie française était faible, d'avoir en temps de paix le même nombre de soldats, en gros, sous les drapeaux, pour permettre l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, c'est ce qui devait garantir la paix et non conduire à la guerre, théoriquement.
Une politique qu'il va continuer de mener lorsqu'en janvier 1913, il devient à la fois le président de la République et la cible des chansonniers.
Notre président, chanté par Fraxon. Vraiment, monsieur Poincaré a de la résistance. Chaque fois qu'il est invité à faire confiance, il ne refuse jamais, car c'est un homme intrépide. Et chaque fois qu'il préside, toute une kyrielle de banquets. Et quelquefois, en l'honneur de nos amis de la triple entente, il donne une fête épatante à tous les ambassadeurs. Quand on apporte le caviar, il se lève et crie vive le tsar. Quand on sert le plum pudding, il chante le God Save the King. Et tous les ambassadeurs qui m'en répondent en chœur, 1, 2, 3. Le président de la République a un appétit magnifique. Oui, nous avons pour diriger l'État un homme qui a de l'estomac.
Et c'était Fraxon en 1913, notre président, un président qui, sous la Troisième République, vous le rappelez, François Roth, n'avait pas beaucoup de pouvoir, sinon celui, comme on vient de l'entendre, de faire bombance à l'Élysée. C'est pas du tout l'idée que Poincaré se faisait de la fonction présidentielle. Il voulait vraiment exercer un réel pouvoir.
Oui, le chansonnier l'exagère un petit peu. Hein, parce que même les présidents...
Ah, c'est le rôle
des chansonniers. Les présidents un petit peu falots, entre guillemets, mais bienveillants, comme Loubet ou comme Falière, s'occupaient quand même un peu de la politique étrangère et de la politique militaire. Mais il est clair que Poincaré a comme ambition, même s'il ne le dit pas clairement, parce que cela effraierait les parlementaires, de redonner à la fonction présidentielle plus de poids qu'elle n'en a depuis 25 ans. Et ça signifierait simplement appliquer la Constitution de 1875. Ça, c'est son objectif. C'est quelque chose qu'il ne dit pas très clairement, mais qu'il a probablement l'ambition de faire. En même temps, il a des doutes. Parce qu'il y a quelque chose, une citation que je ne peux pas manquer de faire, 4 jours après son élection, le 22 février, il dit à son ami paléologue « Je me crois en prison, ou plutôt, je me vois habiter la maison des morts. Ah, cher ami, comme je regrette l'année de suractivité que je viens de passer avec moi. Enfin, je ferai pour le mieux. D'abord, je ne serai pas une simple machine à signer. »
Alors effectivement, il va être très actif, il fait en sorte que cette fameuse loi de 3 ans passe, et puis alors, il est tellement actif dans les moments qui précèdent la guerre qu'on lui a reproché, ça l'a poursuivi toute sa vie, d'avoir au fond été responsable de son déclenchement. On le surnommait, François Roth, on le surnommait Poincaré la guerre.
Oui, c'est toute une campagne de presse qui commence déjà en sourdine pendant la guerre, mais qui va s'épanouir au cours des années 20 et que Poincaré va être quasiment impuissant à réfuter. On a tout un tas de textes où il s'efforce de la réfuter. Alors le problème de ses responsabilités réelles est très difficile à trancher et je n'irai pas jusqu'au bout devant vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous manquent, et notamment ce qu'il aurait dit au tsar, ce qu'il aurait dit au ministre russe lors de son fameux voyage en Russie dans les jours qui ont précédé la Première Guerre mondiale.
Oui, il faut dire qu'à ce moment-là, après l'attentat de Sarajevo qui a déclenché la guerre, Poincaré se rend en Russie.
Bien sûr.
Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à se nouer. C'est peu de temps après son arrivée que la guerre se déclenche. En tout cas, une guerre, une accusation plutôt de responsable de la guerre dont il se défend quand elle est déclenchée en 1914. Mais il va tout faire, une fois qu'elle est commencée, pour la mener jusqu'au bout.
À aucun moment, nous n'avons négligé de prononcer le mot ou de faire le geste qui aurait pu dissiper les menaces de guerre si un fol attentat contre la paix européenne n'avait été depuis longtemps voulu et préparé par des ennemis implacables. Nous avons été les victimes innocentes de l'agression la plus brutale et la plus savamment préméditée. Mais puisqu'on nous a contraints à tirer l'épée, nous n'avons pas le droit, messieurs, de la remettre au fourreau avant le jour où nous aurons vengé nos morts et où la victoire commune des Alliés nous permettra de réparer nos ruines, de refaire la France intégrale et de nous prémunir efficacement contre le retour périodique des provocations.
François Roth, on a entendu Poincaré se défendre d'être responsable de la guerre une fois qu'elle a commencé, une fois qu'elle s'est déclenchée. Une guerre pour laquelle il a fait quelque chose de très important. J'avais oublié moi-même que le mot était de lui. Il a créé l'Union sacrée.
Oui, le mot est de lui. Il est du message à la nation du 4 août 1914. Alors je crois qu'il y a deux choses à dire là, ou trois plutôt. La première, c'est qu'on vit, la nation française, le peuple français vit un moment intense d'émotion à la suite des événements, mais aussi de l'assassinat de Jean Jaurès, qu'il ne faut jamais oublier, qui a eu lieu le 31 juillet au soir. Et deuxième élément, c'est que dans ce contexte, c'est la France qui est attaquée, c'est l'Allemagne qui est agresseur, c'est l'Allemagne qui déclenche la guerre, et c'est l'Allemagne qui, ce jour-là, viole la neutralité de la Belgique et entre en campagne. Donc on est dans le cadre d'une guerre défensive, où il faut défendre le sol, et l'Union sacrée, politiquement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie l'entrée à terme dans le gouvernement français, d'une part des socialistes, et d'autre part, au moins, d'un représentant des catholiques.
Et là, c'est Poincaré qui l'a voulu.
Il l'a voulu, mais ce n'est pas lui qui l'a vraiment mis en œuvre.
Enfin, en tout cas, il a joué un rôle actif, un rôle politique important. Il devient vraiment la figure centrale du pouvoir exécutif à ce moment-là. Cela dit, le pouvoir politique, il est entre les mains aussi, pour des raisons de guerre, des militaires. Ce sont les militaires, c'est le général Joffre, le futur maréchal Joffre, qui va même demander au gouvernement et au président de quitter Paris pour Bordeaux.
Oui, c'est tout à fait juste. Alors, Poincaré joue un rôle central en juillet, août 1914, et dès que la guerre est déclarée, eh bien, ce rôle central s'efface, disparaît presque, parce que ce sont les militaires qui exercent les vraies responsabilités. Comme vous l'avez dit, c'est le général Joffre qui, devant l'offensive allemande, les Allemands sont quand même à 30 km de Paris ou 32 km de Paris, dit au gouvernement « Vous partez à Bordeaux ». C'est le 2 septembre 1914 que Poincaré et le gouvernement s'en vont, dans des circonstances, il faut bien le dire, dramatiques. Et Poincaré a l'impression qu'il a tout perdu. On a même dit qu'il avait pleuré en partant de Paris en disant « mais les Parisiens vont me considérer comme un déserteur ».
Alors il va essayer quand même de se rendre populaire en allant sur le front, mais alors là c'est un échec total.
Oui, il a fait de nombreuses visites sur le front, mais alors malheureusement, il y a deux choses qui n'ont pas été. D'abord, il avait s'était affublé d'un espèce d'uniforme, mi-civil, mi-militaire, avec une casquette, des lodgings. On avait l'impression d'un chauffeur de grande maison et non pas d'un président de la République. Et ensuite, Poincaré n'avait pas, il faut bien le dire clairement, le contact facile avec les hommes du peuple, avec les soldats. Il se considérait toujours un peu comme un président de la République et il ne savait pas trouver le mot, le geste, l'attitude qui aurait permis de communier en quelque sorte avec les hommes de l'arrière et les hommes du front.
En tout cas, une chose sur laquelle il reste ferme, il n'est pas question de transiger avec l'Allemagne. Il veut mener une guerre à outrance sans aucune concession avec l'ennemi.
De quoi demain serait-il fait s'il était possible qu'une paix boiteuse vint jamais s'asseoir essoufflé sur les décombres de nos villes détruites. Un nouveau traité draconien serait aussitôt imposé à notre lassitude et nous tomberions pour toujours dans la vassalité politique, morale et économique de nos ennemis. Et la France, humiliée, s'affaisserait dans le découragement et dans le mépris d'elle-même. Qui donc pourrait s'attarder un instant à de telles visions? Qui donc oserait faire cette injure au bon sens public et à la clairvoyance nationale?
Et c'était Poincaré en 1915, bien déterminé, on vient de l'entendre, à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire sur l'Allemagne. Cela dit, à partir de cette date, la guerre s'enlise, elle tourne même assez mal, y a des difficultés, l'Union sacrée commence à se fissurer, et en 1917, Poincaré est obligé de faire appel vraiment à son pire ennemi politique, c'est Clémenceau. Là, il y est contraint, il ne le fait pas spontanément.
Oui, alors là, Poincaré a connu des moments difficiles en 17, parce que si en 15-16, son rôle politico-militaire est faible, en 17, c'est quand même lui qui a poussé à la fameuse offensive Nivelle du chemin des Dames, qui a été une catastrophe militaire, morale et psychologique, et il est mis en accusation dans les comités secrets. Alors, évidemment, il y a deux solutions à la fin de l'année 17. Soit poursuivre dans la voie que vous venez d'indiquer et appeler Clémenceau, soit, évidemment, appeler soit Briand, soit Caillaux et tenter une paix blanche. Mais avec le discours que vous avez indiqué il y a quelques instants, il est clair que c'est la seconde voie qui, au bout de quelques mois, il a fallu plusieurs mois pour que Poincaré se décide, parce qu'il savait qu'en appelant Clémenceau, politiquement, il ne compterait plus.
Alors là, il n'y a plus aucun pouvoir. Clémenceau, effectivement, le met sur la touche. Poincaré a beau s'opposer à l'armistice du 11 novembre, parce qu'il considérait qu'il fallait continuer la guerre jusqu'au cœur de l'Allemagne.
Il a accusé Clémenceau de couper le jarret de nos soldats.
Et pendant les négociations de paix, eh bien, il va tout faire, mais en vain aussi, pour faire en sorte que la France obtienne l'occupation de la rive gauche.
Il a été tenté de démissionner,
Mais il ne l'a pas fait. Et puis surtout, il ne tire aucun bénéfice politique de la victoire. Lui, c'est Poincaré la guerre. Clémenceau, c'est le père la victoire. Il est vraiment mis à l'écart. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, finalement, il renonce à briguer un deuxième mandat présidentiel en 1920.
Poincaré, c'est le président de la République, et c'est M. Cochon, le président des Champignons. Quand notre président aura fini son temps, qui quittera l'Élysée sans renouveler ses 7 ans, il faudra bien trouver pour gouverner le pays quelqu'un qui soit aussi populaire que lui. Il y a bien M. Rostand et M. Deschanel, il y a bien Félix Potin et le grand du Fayel, Brinchon des Moulinets et le boxeur Carpentier, mais ça n'a rien à voir, ils peuvent se gratter. C'est M. Poincaré, c'est le président de la République, et c'est M. Cochon, le président des Champignons.
Et c'était Charlus, Monsieur Poincaré, au moment justement où celui-ci quittait l'Élysée en 1920, remplacé en effet par un homme dont on vient d'entendre le nom, Paul Deschanel, hein, Paul Deschanel qui s'est rendu à ses dépens tristement illustres en tombant d'un train, enfin bref, qui n'est pas resté très
ami
longtemps à l'Élysée.
Ami rival de Poincaré.
Poincaré, en revanche, n'abandonne pas la politique. Hein. Il redevient sénateur de la Meuse. Et puis alors surtout, en 1922, qu'est-ce qui se passe? Il devient président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Au fond, ça peut pas nous paraître très étrange aujourd'hui, François Roth, parce que c'est presque comme si dans deux ans, Jacques Chirac se retrouvait Premier ministre du futur président de la République.
Je dirais simplement que Poincaré n'a que 60 ans quand il quitte l'Élysée.
Oui.
Et 60 ans, il est encore d'une part en pleine forme, physique et intellectuelle et morale, et d'autre part, il a une espèce de revanche à prendre sur ce sentiment d'impuissance qu'il l'a étreint. C'est ce qui explique qu'il rentre dans la politique active, et il rentre dans la politique active, et c'est peut-être là un paradoxe, pour exécuter un traité qu'il avait combattu. En effet, pourquoi rentre-t-il à ce moment-là en politique d'une façon précise? Pourquoi est-il appelé par Millerand? C'est parce que...
Millerand, c'était le président de la République.
Président de la République. Millerand ne peut pas accepter que son président du Conseil, qui est Aristide Briand, eh bien, soit, comme il l'a dit, c'est peut-être un peu exagéré, à la remorque de la Grande-Bretagne. Il pense que la France a les moyens d'imposer à l'Allemagne le problème clé, c'est celui des réparations, le paiement des réparations.
Alors pour ça, Poincaré va aller loin, puisque c'est lui qui va faire occuper la Ruhr en Allemagne. Hein. Il fait preuve d'autant de fermeté en temps de paix qu'en temps de guerre, François Roth.
Peut-être même plus en temps de paix qu'en temps de guerre. Il a mis quand même 6 mois avant de se décider, parce qu'il en apercevait peut-être les avantages, mais aussi les inconvénients. Alors sur l'expédition de la Ruhr, je dirais 3 choses. D'abord, techniquement, militairement, elle a été parfaitement réussie, mais politiquement, ça a été un échec complet dans 2 domaines. D'abord, les Alliés ne pouvaient suivre, et les Alliés ont mis Poincaré en difficulté, notamment en mettant le front en difficulté. Les Alliés, c'est-à-dire les Anglais, la France seule ne pouvait plus agir. Et ensuite, vis-à-vis des Allemands, je pense que ça a été une faute politique et morale grave.
Oui, parce que ça a encouragé un nationalisme dont on
sait
où il va déboucher. Il y a aussi des problèmes financiers que Poincaré essaye de résoudre par des décrets-lois. On le traite à ce moment-là de dictateur parce que le franc s'effondre à ce moment-là littéralement. Ça va favoriser en 1924 la victoire du cartel des gauches. Poincaré quitte à nouveau la direction du gouvernement et puis il va y revenir en 1926 pour sauver le franc dont la valeur s'était effondrée.
Et soudain, c'est le miracle, un miracle imprévisible. Le franc reprend du poil de la bête. L'or se met à affluer dans les caves de la Banque de France. Ce miracle s'explique par un mot magique, la confiance. La confiance que le pays tout entier a mis dans le nouveau président du Conseil, Raymond Poincaré.
Moi, messieurs, je ne crois qu'au franc. Je fais confiance au président Poincaré.
La politique suivie par Poincaré n'est pour rien dans le phénomène auquel nous assistons. Mais seulement la confiance que le pays met en lui.
Nouvelle victoire du président Poincaré! Demandez le petit Parisien! Les assemblées réunies à Versailles passent la création de la Caisse nationale d'amortissement! Le franc encore consolidé!
Alors après Poincaré, la guerre en 1915, voilà Poincaré, le sauveur du franc, très populaire en 1926, parce qu'effectivement, il va rétablir le franc, même si il le stabilise au 5e de sa valeur d'avant-guerre, ce qu'on appelait le franc de 4 sous, le franc Poincaré, mais il devient extrêmement populaire, il a sauvé le franc.
Oui, le sauveur du franc, c'est la formule qui est restée. C'est peut-être pas tout à fait exact, dans la mesure où, comme vous venez de le rappeler, après d'ailleurs 18 mois d'hésitation, il a fini par se résigner à ce qu'il refusait, c'est-à-dire la dévaluation du franc des 4/5e en créant ce fameux franc Poincaré en juin 1928. Néanmoins, il y a 2 éléments que je voudrais retenir. Le premier, c'est que Poincaré a réalisé non plus l'union sacrée, mais l'union nationale. Mmh. Une formule politique qui revient de temps en temps, qui est la conjonction des centres. Le centre droit et le centre gauche. Centre droit et centre gauche. Les radicaux et Poincaré. Édouard Herriot et Louis Marin. Donc, ils réalisent cette formule politique qui est le rassemblement du centre. Et ça, deuxièmement, ce qui explique que Poincaré soit passé après dans toute la littérature historique comme un homme de droite. L'homme qui fait l'Union nationale, c'est celui qui agit contre la gauche, contre le cartel des gauches. Alors, vous avez dit, Poincaré est extrêmement populaire. Il a été populaire, mais populaire simplement dans une fraction peut-être majoritaire, de la petite, de la moyenne bourgeoisie de province, des paysans, et il avait quand même contre lui une partie de la gauche, je laisse de côté les communistes, mais aussi les socialistes. Il avait une opposition.
Alors, Ivar est quand même resté longtemps à Matignon.
Trois ans, c'était énorme.
Trois ans, hein, c'était très long à l'époque, les gouvernements étaient beaucoup plus courts. Et puis, il finit par quitter ses fonctions.
C'est la maladie.
En 1929, il est malade. Il va quand même, dernier caprice, il va essayer de se faire élire. Et il sera élu bâtonnier du barreau de Paris, je crois, parce qu'il était avocat et c'était, disait-il, sa plus grande ambition, lui qui avait été chef de gouvernement.
Je ne dirais pas caprice, je vous dirais revanche. Ouais. Parce qu'en 1910, les avocats n'avaient pas voulu de lui comme bâtonnier et avaient choisi Laborie, qui avait été l'avocat de Dreyfus. Donc, il voulait cette revanche.
Et puis alors, il meurt en 1934, sans laisser, dites-vous, finalement, de successeur politique. Vous dites, c'est un homme seul quand il meurt en 1934.
C'était déjà un homme seul avant. Disons que quand on considère le paysage politique aujourd'hui et celui d'il y a 60 ou 70 ans, Poincaré se plaçait dans le camp des Républicains, mais c'était un indépendant. Il n'avait pas de parti derrière lui. Il n'était pas chef de parti. Quand il disait qu'il était je suis à la tête du Parti républicain, c'est-à-dire des gens du centre-droit et des gens du centre-gauche. Et puis, il n'a pas réuni autour de lui, il aurait pu le faire, mais il n'a pas réuni autour de lui des collaborateurs qui auraient pu être des successeurs. C'est un homme seul.
On ne peut pas dire que c'est aussi un gaulliste avant l'heure, un peu. Le général de Gaulle avait plutôt de l'estime pour lui, semble-t-il.
Oui, il avait de l'estime. Il avait de l'estime, effectivement, dans la galerie des présidents de la République, c'est celui qui considérait le plus. Il avait peut-être plus d'estime pour Clémenceau que pour Poincaré. Incontestablement, Clémenceau, c'était davantage l'homme, parce qu'il représentait la nation et l'énergie. Or, à plusieurs reprises, vous avez dit Poincaré est autoritaire, dans une certaine mesure, mais il y a un trait qui m'a beaucoup frappé. Il met beaucoup de temps à prendre une décision. Et parfois, cette décision, elle est mal prise, à tel point que quelqu'un avait dit « Mais Poincaré, c'est un roseau peint en fer. » Donc, ce personnage rigide, autoritaire, mais en même temps, quelqu'un qui plie et qui ne sait pas prendre la bonne décision. Pas toujours, mais souvent.
Ce qui me frappe en vous lisant aussi la fin de votre livre, en tout cas François Roth, c'est à quel point il est oublié aujourd'hui. Il y a eu des sondages sur quels étaient les personnages les plus importants de notre histoire au siècle dernier. Poincaré n'apparaît pratiquement nulle part.
Eh bien, parce que sa culture, à mon avis, sa culture, sa position sociale et les thèmes politiques qu'il a développés, qui étaient ceux de son époque, ce sont des thèmes qui appartiennent maintenant au passé, qui appartiennent à l'histoire, et que les générations d'aujourd'hui ne peuvent plus retenir et ne peuvent plus être en empathie, si j'ose dire, avec ce président de la République, avec ce président du Conseil, parce qu'on le représente, quand on le représente toujours vieux. Mais Poincaré a été jeune. Quand il était ministre de la Culture, c'était un espèce de Jacques Lang avant la lettre, mais ça, on l'a complètement oublié. On ne retient que le vieillard.
Et ça, on le retrouve dans votre livre, François Roth, merci d'être venu. Votre livre, c'est une biographie passionnante, très complète, de Raymond Poincaré, qui a été publié aux éditions Fayard. Vous avez pu entendre un extrait de la série télévisée Les Brigades du Tigre, de Victor Vicas, disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. La semaine prochaine, dans 2000 ans d'histoire, lundi, Marilyn Monroe, mardi, l'indépendance de l'Inde. Nous serons en direct et en public au Salon du Livre avec Dominique Lapierre. Mercredi, une histoire étrange au début du 19e siècle, l'enfant sauvage de l'Aveyron. Jeudi, à l'occasion du 300e anniversaire de sa mort en 1707, Vauban. Et enfin, vendredi, la suite de notre série spéciale présidentielle jusqu'au 20 avril en partenariat avec Le Monde 2 hors-série, consacré à l'Élysée. Et le sujet de vendredi sera l'élection présidentielle de 1965. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.